Bonsoir à toutes et à tous, du grain à moudre d'été, ça commence maintenant et on est ensemble jusqu'à 19h. Aujourd'hui, tenons-nous encore à nos données personnelles. Si vous pensez que la technologie peut résoudre vos problèmes de sécurité, alors vous n'avez rien compris au problème ni à la technologie. Ce sont les mots de Bruce Schneier, expert américain en cryptographie, sécurité informatique et spécialiste de la vie privée. Lui qui dit encore sur son blog que seul un ordinateur éteint, enfermé dans un coffre-fort et enterré 6 pieds sous terre dans un endroit tenu secret peut être considéré comme sécurisé et encore. Mais sans pour autant les résoudre tout de suite, nos problèmes de sécurité, peut-on au moins éviter de s'en créer de nouveaux ? Se poser la question de l'exposition de son moi, de la déclinaison de son identité sur le net à l'heure où chaque trace que nous y laissons y est mémorisée, transférée, monétisée, transformée, tout cela le plus souvent à notre insu. Aujourd'hui, c'est Facebook qui doit se justifier auprès de la CNIL de l'utilisation des données personnelles de ses utilisateurs et d'internautes en général. Et ce n'est pas la première fois que le réseau social est appelé à revoir sa politique en la matière. Ce n'est pas non plus, loin s'en faut, la seule entreprise à être visée par ce genre d'accusation. On peut citer Tinder, Snapchat, Runkeeper, ou encore Pokémon Go, application mobile qui garde précieusement les données géographiques, orientation sexuelle, préférences politiques ou les photos de leurs utilisateurs à des fins commerciales. On pourrait, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, interroger l'évolution du droit européen censé nous protéger de ce vol parfois conscient, parfois même consenti à grande échelle. On pourrait aussi s'interroger soi-même sur notre propre responsabilité à être présent et à le demeurer sur la toile, surtout dans le contexte que nous vivons aujourd'hui où la traque de terroristes présumés peut renforcer la légitimation d'une cybersurveillance aveugle et généralisée. Alors tenons-nous encore à nos données personnelles, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Desjean-Passano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat, ancien chef du service juridique de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et de la liberté. Vous êtes également professeur de droit en charge des formations en protection des données au Conservatoire national des arts et métiers. Et vous avez également publié la protection des données personnelles chez LexisNexis, mise à jour en janvier dernier. En face de vous, Adrienne Charmet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice de campagne à la Quadrature du Net, l'association de défense des libertés numériques. Et notre troisième invité est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble, c'est Nathalie Devilliers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en droit, enseignante chercheuse à la Grenoble École de Management. Alors, première question, on va faire déjà dans cette première partie un état des lieux des outils législatifs que nous avons à notre disposition pour contrôler, pour protéger nos données personnelles. Aujourd'hui, Facebook doit répondre aux injonctions de la CNIL, normalement, qui relèvent 10 manquements à la loi informatique et liberté. La CNIL qui reproche essentiellement au réseau social de collecter des données personnelles sans le consentement de ses utilisateurs et parfois même d'utilisateurs qui ne sont pas inscrits sur Facebook, qui ne font que passer sur certaines pages. Alors, que peut la CNIL face à une entreprise comme Facebook ? Première question à vous, Guillaume Bassano.
Alors, la CNIL, en fait, donc, c'est l'autorité publique qui a en France le pouvoir de procéder à des contrôles dans les entreprises privées ou les administrations pour vérifier que ces structures respectent la loi informatique et liberté. C'est une vieille loi qui date de 78, donc qui existe depuis près de 40 ans. La France est un des premiers pays en Europe et dans le monde à avoir construit une réglementation de manière très anticipée sur les questions de protection des données. Et donc cette loi a institué, au-delà du contrôle qui est fait par le juge, de manière traditionnelle, une autorité administrative qui est spécialement chargée de vérifier ces sujets. Alors aujourd'hui, cette loi a évolué, notamment à la faveur d'une réforme européenne qui remonte à 95, qui a été transposée en France en 2004. Et la CNIL aujourd'hui donc, a à la fois des pouvoirs de perquisition. Elle peut aller dans les entreprises pour regarder ce qu'il y a dans les ordinateurs, vérifier les contenus des fichiers, vérifier si les entreprises donc respectent les règles qu'elles sont censées respecter de déclaration de fichiers, d'information des personnes.
Et elle peut le faire pour des entreprises comme Facebook, elle le fait, elle l'a déjà fait.
Alors, elle peut le faire sous réserve que ces entreprises soient accessibles sur le territoire national, parce que ce pouvoir de perquisition, évidemment, c'est un pouvoir qui relève du droit français. La CNIL ne peut pas, de sa propre initiative, aller à l'étranger contrôler des serveurs informatiques qui seraient sur le territoire français. Il y a des dispositifs prévus dans la loi de coopération avec d'autres autorités au niveau européen, mais ces mécanismes aujourd'hui sont assez peu utilisés. Et quand la CNIL fait des contrôles en France, elle peut derrière prononcer des interdictions d'utiliser des fichiers ou des sanctions pécuniaires, mais dont le montant pour le moment, ça changera bientôt, est assez limité, puisque la CNIL aujourd'hui ne peut prononcer que des amendes, par exemple, de 150 000 euros pour un premier manquement.
Alors, vous dites, Guillaume Desjean-Bassano, dans une tribune que vous avez publiée dans Libération en juin dernier, que le règlement général sur la protection des données publié à Bruxelles ces derniers mois donne à la CNIL le pouvoir de prononcer des sanctions financières à hauteur de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires des entreprises. Pouvoir dont vous dites qu'elle l'a déjà en réalité et qu'elle ne l'a utilisé que 3 fois en 2015, selon son rapport annuel. Est-ce que vous soulignez par là un manque de volonté politique de la CNIL?
En fait, il y a deux choses. D'abord, jusqu'à présent, les textes limitaient beaucoup l'action de la CNIL et ce problème aujourd'hui est réglé parce qu'effectivement, depuis mai dernier, il y a un nouveau texte au niveau européen qui est adopté, qui sera applicable dans 2 ans, qui va beaucoup renforcer les pouvoirs de la CNIL en ce domaine puisqu'elle pourra désormais prononcer des amendes de plusieurs millions d'euros. Néanmoins, le constat, c'est que la possibilité de prononcer des amendes existe depuis 2004 en France, hein, et la CNIL utilise très peu cette possibilité. Le dernier rapport annuel de la CNIL fait état de 3 sanctions pécuniaires en 2015. C'est pas forcément un problème de volonté politique, c'est aussi une question d'habitude. C'est pas le mode de fonctionnement habituel de la CNIL qui est plus dans un mode de concertation, de médiation. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre d'acteurs sont pas forcément sensibles à cette approche.
Faites allusion à Facebook, par exemple.
Oui, ou à d'autres opérateurs de l'Internet. Et qu'aujourd'hui, le vrai moyen d'action de la CNIL, c'est de faire du contrôle et de prononcer des sanctions. Et de fait, on est un peu dans une phase de transition où, pour le moment, il y a assez peu de décisions qui sortent.
Nathalie Devilliers, est-ce que la CNIL pourrait être plus exigeante, plus présente encore sur ce terrain-là?
Oui, tout à fait. Elle pourrait adopter toute une série de démarches et s'inspirer par exemple de la FTC, la Federal Trade Commission, son équivalent un petit peu aux États-Unis. Elle a commencé à le faire sur le site de la CNIL. Il y a toute une série de documents qui sont disponibles pour le public, pour savoir comment protéger mes données, comment me comporter. Et ça démarre vraiment au niveau éducatif, niveau CP par exemple. Quand je fais un exposé, qu'est-ce que je peux faire? À quoi je dois faire attention dans ma navigation web, etc. La FTC, elle va beaucoup plus loin. Elle met en place des séminaires, elle a mis en place des outils interactifs pour aider les développeurs à identifier le cadre juridique qu'ils doivent respecter. Je pense qu'il y a aussi une brique qu'il faudra bien plus développer à la CNIL, mais peut-être avec d'autres acteurs, on y reviendra tout à l'heure. Ce sont des actions d'advocacy, c'est-à-dire des actions pour faire prendre conscience à l'utilisateur de sa part de responsabilité, mais aussi l'éduquer pour savoir comment réagir face à une violation potentielle. On sait que les utilisateurs ne lisent pas les conditions générales d'utilisation des applications, des services qu'ils téléchargent. Il va falloir peut-être mettre en place une série de moyens techniques pour attirer l'attention de l'utilisateur, de la même manière qu'on voit maintenant ce bandeau en poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez les cookies. Par exemple, la CNIL a développé un petit outil qui s'appelle CookieViz.
Donc les cookies qui sont des fichiers qui mémorisent des données personnelles, des mots de passe qu'on peut mémoriser donc sur Internet, sur certains sites que l'on fréquente.
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, vous laisser des traces sur tous les sites que vous visitez, des cookies qui peuvent être dits persistants, c'est-à-dire rester actifs jusqu'à 5 ans. Ce type d'action pourrait être mis en place pour faciliter la prise de conscience des utilisateurs, des sites Internet et des applications par rapport à l'étendue de la captation de leurs données personnelles auxquelles ils consentent en fait.
Alors,
sans le savoir.
Justement, ce que vous venez de dire devance un peu la question que je voulais poser à Adrienne Charmet, qui est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que la CNIL demande des comptes à Facebook sur des manquements par rapport à la collecte de données personnelles d'utilisateurs, est-ce que c'est pas surtout un moyen de mettre la lumière auprès du grand public sur ces manquements-là, justement? Est-ce que c'est pas une manière d'alerter surtout le grand public plus que de n'alerter des entreprises comme Facebook?
Alors je pense que c'est probablement, effectivement, je suis pas dans la tête de la CNIL, hein, mais j'espère qu'il y a cette idée effectivement de dire qu'il n'y a pas d'impunité dans la collecte massive ou la collecte illégale de données personnelles. En revanche, je rejoins Guillaume Desjean-Passano sur le fait que la CNIL a peut-être besoin de muscler un peu ses actions et qu'elle a été très longtemps dans une culture de la négociation et du compromis avec les entreprises, que ce soit sur les données personnelles ou sur les questions de spam, par exemple, et qui a probablement besoin d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, je pense que l'information du grand public passera d'autant mieux que les sanctions seront efficientes et qu'elles seront réelles et qu'il y aura une réelle action et des CNIL et des particuliers et des associations dans la défense des données personnelles.
Ce qui ne s'est pour l'instant jamais produit.
Pour l'instant, pas beaucoup.
À l'égard de grandes entreprises comme celles dont on parle.
Non, pour l'instant, effectivement, il y a très peu d'actions. Il n'y avait pas forcément la possibilité d'action collective ou d'action de groupe non plus pour défendre les données personnelles. Ça, c'est des choses qui vont changer à la fois grâce au futur règlement européen et puis à certaines dispositions qui sont arrivées dans le droit français ces derniers mois, sur lesquelles nous, on a beaucoup poussé pour que ces dispositions arrivent. Maintenant, il y a aussi effectivement besoin d'une politique publique d'information très forte. Et de promotion et de diffusion et d'information sur des outils concrets. Parce qu'il y a un fatalisme assez grand. Les gens n'ont pas très très envie de se passer des sites sur lesquels ils ont l'habitude d'aller. Et donc il faut arriver à trouver des solutions à la fois pour garder un certain confort ou garder des habitudes d'utilisation de certains services et puis être extrêmement ferme à la fois sur la loi et sur son application.
Alors avant justement d'aborder cette question de la sensibilisation du public par rapport à cette question de la collecte des données personnelles, je voudrais qu'on revienne sur les outils législatifs dont on dispose et notamment sur le règlement général sur la protection des données donc qui a été publié le 4 mai dernier et qui a pour but essentiellement de renforcer la compétitivité des entreprises qui n'auront plus de déclarations à adresser à la CNIL mais aussi qui vise ce règlement à assurer un plus haut niveau de protection réelle des internautes. Alors Guillaume Desjean-Bassano, vous doutez de ce cadre juridique, vous si ce règlement peut répondre aux exigences de compétitivité dont il parle pour les startups européennes, ça laisse toujours en suspens la question du contrôle de l'identité numérique.
Oui, il est clair que ce texte a à la fois des aspects très positifs, hein, d'abord pour les professionnels, puisque par rapport à tous ces mastodontes de l'Internet qui sont établis en dehors de l'Union européenne, il y a une vraie difficulté économique, hein, pour nos startups, nos entreprises de l'Internet, de pouvoir, elles aussi, collecter de la donnée dans des conditions un peu égales, puisque ces structures qui sont aux États-Unis, forcément, sont moins bien contrôlées que nos structures internes. Donc de ce point de vue-là, le règlement apporte des réponses assez satisfaisantes pour les entreprises. Mais il a été présenté par la Commission européenne, ce règlement, comme voulant renforcer les droits des internautes, des personnes fichées. Et là, moi, j'ai un regard quand même plus critique sur ce qui a été fait. Je voudrais vous donner un exemple. On parle de l'action de la CNIL. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas que la CNIL qui défend les internautes. Il y a aussi le juge. Et ce qu'on a constaté depuis quelques années, c'est que, par exemple, le juge européen, la Cour de justice de l'Union européenne, a pris des décisions très courageuses en matière de protection des droits des internautes, par exemple en consacrant un nouveau droit qu'on appelle le droit au déréférencement, qui est relatif aux moteurs de recherche. C'est le droit pour les internautes de demander un moteur de recherche, en France notamment Google, hein, qui est ultra majoritaire en termes d'utilisation, donc de demander à ce que votre nom ne soit plus lié à une clé de recherche qui vous poserait problème. On tape votre nom, ça renvoie sur un contenu qui vous gêne, par exemple une décision de justice ou autre. Le juge européen a dit que vous aviez le droit de demander ce déréférencement, ce que la CNIL en France et les autres autorités de protection des données en Europe n'avaient jamais consacré. Et là où je suis assez déçu, c'est que, par exemple, le règlement européen dont je vous parle, il n'a pas repris formellement ce droit au déréférencement. Donc il y a eu beaucoup de communication sur le droit à l'oubli sur Internet, mais ce droit au déréférencement créé par le juge, pour des raisons à mon avis quand même un peu de lobbying, on le trouve pas, formellement dans le projet de règlement.
C'est un règlement que vous jugez plus favorable aux entreprises qu'aux utilisateurs?
Un peu, ou en tout cas qui, sur le plan des droits des personnes, ne va pas apporter grand-chose par rapport à l'existant.
Nathalie Devilliers, vous vouliez réagir sur cette question du déréférencement et du profilage?
En particulier, oui, sur le profilage, pour compléter le propos, il y a une disposition qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est la disposition sur les droits du sujet des données, puisque c'est comme ça que le règlement l'appelle, concernant le profilage. Toutes ces données qui sont captées aujourd'hui sont basculées dans le big data, sont ensuite converties grâce à un algorithme en termes d'informations. et le profilage qui consiste à prédire des choix, un rendement professionnel, une situation économique, une localisation, hein, par définition, on vous géolocalise, éventuellement vos mouvements, votre état de santé. C'est un risque dont les usagers doivent prendre conscience. Aujourd'hui, quand tout à l'heure vous parliez de Pokémon Go, c'est quand même une société qui a été créée par le créateur de Google Earth, John Oakey, et qui est fan de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies et des robots. On sait aujourd'hui que les créations telles que les livres, enfin les créations au sens large, hein, peuvent être exploitées par la technologie en captant vos émotions. C'est quand même assez, assez symptomatique de notre société.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Concrètement, ça donne quoi?
Concrètement, ça donne des entreprises qui vont développer des jeux, des instruments technologiques qui vont s'appuyer sur la géolocalisation, la captation de données pour générer des profils. Et ensuite, la conséquence finale, ce sera porter une atteinte aux droits des utilisateurs, mais générer d'autant plus de failles de sécurité qu'on capte plus de données, générer un potentiel vol d'identité. Beaucoup de personnes utilisent une banque en ligne, utilisent l'e-administration. Je pense que tous les auditeurs ont déjà reçu du phishing.
De faux mails qui demandent des coordonnées bancaires.
Oui, des faux mails d'extorquer de l'argent. Financière, donc des impôts, de la CAF, etc.
Vous faites par là allusion, Nathalie Devilliers, au fait que certaines applications mobiles s'infiltrent dans nos données déjà présentes dans nos téléphones pour nous proposer des produits ultra personnalisés, mais qui s'apparentent en fait à de l'espionnage pur et simple, c'est
bien ? Tout à fait. Ce sont des techniques de marketing agressives, le ciblage comportemental, le géomarketing avec les balises beacon, donc qui s'activent dès que vous vous approchez d'un magasin. Par exemple, si hier soir sur ma tablette, tranquillement chez moi, j'ai regardé tel ordinateur et que je me balade dans la rue, je vais bientôt demain recevoir un texto de la FNAC me disant: Nathalie, l'ordinateur est disponible à la FNAC, c'est juste à côté à 200 mètres. Le GPS va s'activer pour me faire entrer dans la FNAC, pour ensuite me faire aller au bon étage de la FNAC, je vais arriver dans le bon rayon et puis j'aurai un vendeur qui va me dire: bonjour Nathalie, on sait que tu as téléchargé la notice de cet ordinateur, qu'est-ce que tu souhaites savoir de plus? Là, cet exemple-là est inoffensif, a priori.
Alors, en attendant,
imaginez les abus qu'on pourrait en faire.
En attendant, il y a déjà, donc, pour en revenir à Facebook, et, donc, qui est au centre de l'actualité en ce moment, aujourd'hui, par rapport à la CNIL, l'application Facebook peut s'infiltrer dans notre téléphone et nous suggérer des amis dont on a parlé dans un SMS. C'est aujourd'hui ce qu'il se passe pour certains utilisateurs de Facebook. Je voudrais entendre Adrienne Charmet sur la question de cette réglementation. Vous, sur le site de la Quadrature du net, vous approuvez la position du contrôleur européen pour la protection des données que vous jugez satisfaisante parce qu'elle dépasse, dites-vous, enfin, quand je dis vous, c'est la Quadrature du net, le simple questionnement du traitement des données personnelles. Ce contrôleur dit que tous les espaces de messagerie, quels qu'ils soient, doivent être protégés de la même manière et il autorise explicitement le chiffrement des messages pour une meilleure protection des communications. C'est vraiment par là qu'on doit aller aujourd'hui pour imposer une meilleure protection des utilisateurs?
Oui, alors cet avis du contrôleur européen pour la protection des données ne concerne pas le règlement en tant que tel, oui. Il concerne un autre texte européen qui va être révisé dans les mois qui viennent, qui est une directive, cette fois-ci, sur le secret des télécommunications. Et effectivement, ce contrôleur européen explique que le droit à la vie privée est quelque chose de non négociable et qu'il doit s'articuler de manière très forte avec la sécurité des télécommunications et que pour pouvoir à la fois protéger la vie privée et la sécurité des télécommunications, qui est indispensable à la fois à la sécurité des individus et à la sécurité du commerce en ligne, de plein de choses, on a besoin de ne pas toucher aux questions de chiffrement qui sont aujourd'hui très remises en question, notamment dans les législations antiterroristes. Pour revenir un tout petit peu sur le règlement européen, moi je suis assez d'accord avec Guillaume Desjean-Passano sur les limites de ce règlement et sur cet équilibre très difficile à trouver mais qui a penché plutôt en faveur des entreprises et c'est malheureux de le dire, mais notamment à l'instigation des États membres dont la France fait partie. Finalement, dans ce jeu de négociation entre la Commission européenne, le Parlement européen et les États, bah, c'est pas les États qui sont les plus protecteurs des citoyens parce qu'ils essayent aussi de protéger les industries. Dans ce règlement, pour nous, il y a une énorme faille. Et cette énorme faille, c'est celle de l'intérêt légitime des entreprises qui fait que, en fait, on a plein de protections pour les utilisateurs. Et puis, très souvent, dans ce texte, dans ce gros règlement, on dit, bah oui, mais si l'entreprise a un intérêt légitime, par exemple, à utiliser des données personnelles pour une autre finalité, pour une autre utilisation que celle pour laquelle vous avez donné votre consentement, ben elle peut le faire. Si cette entreprise a un intérêt légitime à modifier sa manière de traiter les données, elle pourrait le faire. Ou en tout cas, ça laisse un flou qui devra être réglé par le juge ou par les CNIL. Enfin, on verra, c'est après ça se décline. Mais donc, pour nous, c'est une des failles importantes de ce règlement, c'est qu'on peut comprendre d'un certain côté, mais la notion d'intérêt légitime des entreprises, finalement, c'est une sorte de faille qui risque de faire tomber la majorité des protections de ce règlement.
Et c'est pas la seule faille, Nathalie Devilliers, apparemment, comprend, si on vous suit.
En termes d'accès, on énonce un droit d'accès aux données pour le sujet des données, et notamment sur les destinataires de ces données. C'est-à-dire que celui qui collecte votre donnée est censé s'identifier, et il est censé aussi identifier les destinataires de ces données, c'est-à-dire les destinataires secondaires, ceux qui auront vos données en seconde main, ou les catégories de destinataires. Et c'est le fait qu'on se réfère à des catégories de destinataires et non pas à des destinataires au sens strict qui est un point négatif. Il y a une différence entre lister les destinataires et les identifier clairement et dire qu'on les transférera à nos partenaires commerciaux, mention que tout le monde connaît. Donc c'est un premier point négatif. Un autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas de référence à un traitement qui serait déloyal. Or, on voit bien dans la question de la collecte de la donnée que la question du consentement à la collecte n'est pas consciente de la part des utilisateurs. Et donc, c'est un traitement déloyal qui est opéré par ces entreprises. Ensuite, il y a l'application vers les États-Unis avec le Privacy Shield qui est un autre sujet.
On va y venir tout de suite.
Qui doit être traité frontalement avec.
On va y venir tout de suite justement à ce Privacy Shield, ce bouclier de protection qui a été adopté le 12 juillet par la Commission européenne et qui remplace une précédente mesure, le Safe Harbor, qui a été invalidée par la Cour européenne de justice. Ce bouclier de protection, il pose lui aussi toujours question parce qu'il ne résout pas totalement, il ne résout toujours pas la question de la collecte des données. Il permet aux utilisateurs d'avoir un droit de regard plus poussé sans doute sur la façon dont les entreprises américaines les utilisent, mais ils n'ont pas le pouvoir de l'empêcher, cette collecte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Guillaume Desjean-Bassano, qu'il n'y a aucune législation qui interdit purement et simplement la collecte de données?
Mais en fait, cet exemple-là de l'accord Safe Harbor qui a été invalidé par l'Union européenne pose la question: comment est-ce qu'on essaye d'obliger des entreprises qui sont établies en dehors de l'Union européenne à respecter nos règles, sachant que les questions de protection de données sont des questions où on a, nous, un modèle en France et en Europe qui est quand même particulièrement protecteur, et que ce modèle se retrouve pas ailleurs dans le monde.
Et alors, comment on fait?
Eh ben, on fait ça par la négociation internationale et par les accords internationaux, donc en fait par des questions de négociation politique. Et donc aujourd'hui, les textes en France et en Europe protègent plutôt pas mal les données des internautes, sauf que quand les données, par exemple, partent aux États-Unis, eh bien jusqu'à présent, elles étaient protégées dans le cadre de cet accord international qui avait été négocié par la Commission européenne, qui avait déjà été, qui avait donné lieu à de très nombreuses discussions, qui a fini par être invalidé. Et donc là, la logique, c'est on essaie d'adopter un nouveau texte pour que les droits des internautes en Europe soient bien protégés lorsque les données vont aux États-Unis. Mais sauf que la négociation aujourd'hui, c'est l'avis par exemple de la CNIL, hein, de ses homologues européens, la négociation n'est pas satisfaisante et que finalement, on ne va pas aboutir à un texte plus protecteur. Donc ça, c'est une question de négociation international, de position de force, de rapport de force.
Adrienne Charlet.
Oui, et sur cette question du Safe Harbor et du Privacy Shield, en fait, arrive derrière l'espèce d'éléphant dans le placard de cette question des données personnelles, qui est la question de la surveillance par les États. L'invalidation du Safe Harbor, elle s'est faite parce qu'un citoyen européen, autrichien en l'occurrence, Max Schrems, attaque Facebook en disant « Mais Facebook conserve mes données aux États-Unis. Or, depuis les révélations d'Edward Snowden, je sais que les services de renseignement américains ont potentiellement accès dans le cadre du Patriot Act à mes données personnelles. Je ne suis pas d'accord pour être soumis à ce type de surveillance. » Et donc, je passe les détails, mais la Cour de justice de l'Union européenne considère que les Européens sont soumis à une potentielle surveillance massive par les États-Unis. États-Unis et invalide cet accord. Sauf que le nouvel accord ne règle pas du tout ce problème. Et effectivement, on est dans des négociations politiques où finalement la collecte de masse de données, la circulation de données entre l'Europe, les États-Unis ou ailleurs, etc., certes pose des problèmes de vie privée entre les utilisateurs et les entreprises, mais au final, ça permet à tous les services de renseignement d'avoir à disposition des masses gigantesques d'informations personnelles qui vont leur servir dans le cadre de leur activité de surveillance. Donc on a cette espèce de non-dit de la surveillance derrière qui n'est jamais vraiment traitée. Et probablement que si les services de renseignement ne surveillaient pas les données personnelles, on aurait des législations beaucoup plus protectrices.
France Culture. Du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Tenons-nous encore à nos données personnelles. On en parle ce soir avec nos trois invités, Guillaume Desjambes-Passano, magistrat ancien chef du service juridique de la CNIL, Adrienne Charmet, coordinatrice de campagne à la Quadrature du Net, et Nathalie Devilliers, docteur en droit et enseignante chercheuse à la Grenoble École de Management. Alors justement, vous soulevez un point essentiel de notre débat, Adrienne Charmet, avec cette surveillance des États, parce que c'est tout le débat qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France, en ce contexte d'état d'urgence, par exemple à la messagerie Telegram, dont on a découvert qu'elle était un canal de communication pour les terroristes qui ont agi ces derniers temps en France. Qu'est-ce que le contexte sécuritaire qu'on vit aujourd'hui en France peut avoir comme conséquence sur le respect de nos données personnelles?
Il y a deux conséquences. La première, c'est des conséquences législatives. On a depuis un peu plus de 2 ans une série de lois antiterroristes ou de lois sur le renseignement, etc., ou de réformes de procédures qui donne des accès toujours plus grands aux données personnelles, soit dans le cadre d'une procédure pénale, soit dans le cadre du renseignement. Et en fait, sous la pression du risque terroriste et de l'émotion et du besoin effréné de donner une réponse, quelle qu'elle soit, que nos politiques ont en ce moment, mais en fait, ils légifèrent ce qui leur semble plus facile. Le plus facile, c'est souvent la surveillance d'Internet. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qui va avec, c'est que on a finalement une grande difficulté à se rendre compte en tant qu'utilisateur de ce que c'est que ces données personnelles qui circulent, qui peuvent être surveillées, qu'est-ce qu'on peut faire avec, en quoi ça c'est extrêmement intrusif si on surveille nos communications sur Internet ou nos données de connexion. Et du coup, on accepte. Du coup, globalement, dans ce contexte extrêmement tendu du risque terroriste, on prend l'outil Internet comme le danger en tant que tel, comme si... oui, des terroristes utilisent Telegram, ils utilisent des mails, ils utilisent des voitures et des camions, et on songe pas à interdire les camions. Donc, il y a un moment où il faut savoir.
Et par ailleurs, c'est aussi oublier tous les utilisateurs
de Telegram.
Tout à fait,
tous les utilisateurs, tout à fait honnêtes. Donc, il y a une capacité d'acceptation de la part de la population, de mesures prises très souvent dans une urgence et dans une méconnaissance des enjeux, qui nous semble pour la Quadrature du Net extrêmement dangereuse pour l'avenir, parce qu'en fait, on est en train de rentrer dans une législation générale où ne plus avoir d'espace d'intimité sur Internet devient quelque chose de normal. Et en fait, si on cherche à protéger sa vie privée, c'est presque quelque chose de suspicieux. C'est qu'on a des choses à cacher, alors qu'en réalité, notre intimité, on la protège assez naturellement en dehors d'Internet. On devrait avoir le même droit sur Internet.
Nathalie Devilliers, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Adrienne Charmet? Est-ce que maintenant, il est devenu... il est considéré comme anormal de ne plus avoir d'espace d'intimité sur Internet?
Anormal, non, mais je crois que c'est un luxe. Pour paraphraser Warhol, je crois que le jour où on pourra avoir, à partir de maintenant, 15 minutes d'intimité, ce sera un exploit, ce sera un vrai luxe. On est surveillé pour des raisons de sécurité. On a des vies digitales, une forme d'hétéronyme avec autant de profils qu'on a d'interfaces. Et puis en réalité, tout ça est rassemblé et peut être capté dans le cadre d'une surveillance de masse qui nous échappe.
Alors, les règles du jeu aussi sur Internet sont faites de telle manière que qu'un internaute lambda, dont je fais partie, accepte volontiers les règles du jeu, accepte volontiers de céder au don de ces données. Les conditions d'utilisation sont souvent très longues, sont souvent peu claires. À ce titre, l'eurodéputé socialiste Marc Tarabella pointait la responsabilité de Tinder et de Happn, deux applications de rencontres géolocalisées, qui violent, selon selon lui, le droit européen, en utilisant des photos, des préférences, des données géographiques susceptibles d'être modifiées. Et lui insiste sur cette notion et de consentement et de clarté des conditions d'utilisation. Sur ces deux points, le consentement et la clarté, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Où se situe la responsabilité juridique aujourd'hui, Guillaume Desjean-Passano?
Alors déjà, il faut bien comprendre que juridiquement parlant, information et consentement, c'est pas du tout la même chose. Et que contrairement à une idée reçue...
C'est quand même lié.
Alors c'est lié, sauf que le niveau d'exigence n'est pas le même. Et juridiquement aujourd'hui, la collecte de données n'implique pas le recueil du consentement des personnes. On entend beaucoup parler de cette expression, mais... En droit français, et le règlement européen ne va rien changer à cela, pour collecter de la donnée, pour qu'une entreprise collecte de la donnée, il faut que la personne concernée soit bien informée des conditions dans lesquelles ces données vont être collectées. Mais on ne va pas lui demander son accord, parce que le principe, et c'est notamment la notion d'intérêt légitime des entreprises que vous évoquiez tout à l'heure, fait que le consentement, c'est une exception. Le consentement, c'est « tant que je n'ai pas dit d'accord », on ne peut pas collecter mes données. Bah aujourd'hui, juridiquement, cette notion de consentement, elle est réservée à des hypothèses très particulières, par exemple de collecte de données qu'on appelle sensibles sur l'orientation sexuelle, de données relatives à la géolocalisation, ou en matière de marketing ciblé, même s'il y a un débat là-dessus. Quand on collecte des informations très fines sur les gens pour leur afficher de la publicité ciblée, on devrait normalement recueillir le consentement des personnes, même si cette règle est peu appliquée. Donc aujourd'hui, la loi exige simplement que les gens soient bien informés sur ce qu'on va faire avec leurs données, et c'est suffisant sur le plan juridique.
Alors, quand on regarde ce qu'il reste à faire au niveau juridique, on se dit que les utilisateurs, les internautes, devraient avoir aussi leur part de responsabilité pour faire avancer le débat. En termes de responsabilisation des internautes, Adrienne Charmet, la Quadrature du Net, je me souviens, il y a quelques mois, distribuait sur la place de la République et sur d'autres places pendant les grosses mobilisations, notamment les manifestations contre la loi travail, il y en a des prospectus qui appelaient à reprendre le contrôle de sa vie numérique. Comment est-ce que les gens à qui vous distribuiez ces papiers réagissaient? Est-ce qu'il y avait une vraie demande par rapport à ça? Je rappelle que c'était des prospectus dans lesquels vous énumériez des sites, des applications chiffrées, des sites sur
lesquels... sites pour s'informer.
Voilà, ouais. Pour s'informer pour conserver une certaine confidentialité sur Internet.
Oui, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande d'information, une vraie demande d'outils. Avec quelques limites, c'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'on a un Internet qui s'est énormément centralisé depuis une dizaine d'années. Donc les gens ont l'habitude de faire tout sur Google, beaucoup de choses sur Facebook, beaucoup de choses dans un univers Apple centré, enfin bref, j'essaie de balayer un peu. Globalement, on a pris l'habitude de confier beaucoup de choses et d'utiliser beaucoup d'applications qui sont très très centralisées, qui se connectent les unes avec les autres. On se connecte sur une application avec son compte Facebook, etc. Donc il y a beaucoup d'attentes et en même temps, quand on commence à expliquer aux gens que pour reprendre la main, il va falloir décentraliser. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, en fait, il existe quantité d'outils, beaucoup d'outils développés dans les communautés du logiciel libre où les codes sont ouverts, où les outils sont disponibles gratuitement avec un haut niveau de sécurité, etc., avec différents niveaux de sécurité et de côté pratique.
Et qui sont si accessibles que ça au grand public?
En fait, c'est assez accessible, mais ça demande ce petit déclic de se dire je vais changer un petit peu mes habitudes, je vais décentraliser un peu mon utilisation d'Internet, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'utiliser un mail, un moteur de recherche, un réseau social, une application de téléchargement de photos, tout ça sur la même plateforme, ben, je vais en avoir 4 ou 5 différentes. Après, ça se gère très bien, vous avez des coffres forts de mots de passe qui gère tous vos mots de passe. Quand on a envie de s'y mettre, ça se fait très très bien. Mais ça veut dire qu'on va redonner à son utilisation d'Internet un peu plus de variété. Et ça demande probablement aujourd'hui un effort plus grand qu'il y a une dizaine d'années. Mais à nous et à la CNIL probablement et à plein d'associations et plein de groupes de s'y mettre et de faire ce petit effort, ce petit déclic qu'une fois qu'il est fait, finalement, on ne revient pas en arrière. Une fois qu'on a récupéré cette sensation, puis cette espèce de plaisir de maîtriser ces outils.
Nathalie Devilliers, un retour vers un Internet décentralisé, est-ce que ça vous semble possible?
Alors ici, on pourrait parler de dark web, de chiffrement. Ce sont d'autres solutions qui sont aussi disponibles. Moi, ce qui me gêne énormément...
Vous faites peur à Adrienne Charmet avec ces mots.
Non, ça me fait pas peur, non, mais ça risque normal. De faire peur aux gens alors que ça devrait pas.
Ouais, ça devrait pas. C'est vrai que le dark web est très souvent associé à quelque chose d'illégal. Le dark web, c'est un mode de navigation qui est totalement confidentiel. Quand vous êtes sur Tor, sur d'autres réseaux comme Onion, vous n'êtes pas sur Google Chrome, vous n'êtes pas sur Explorer, vous n'êtes pas sur Mozilla. Et vous naviguez en mode furtif, on va dire, entre guillemets. C'est vrai que c'est une connotation assez négative, alors que le dark web est un outil des libertés fondamentales. Le dark web n'est utilisé par des activités illégales dans une partie qui est quand même assez limitée. Je pense que le grand public a une image assez négative, mais il ne faut pas oublier que notamment le monde journalistique utilise beaucoup le dark web pour communiquer dans des situations de crise sur des violations de libertés fondamentales. Et ce qui me gêne dans cette prise de conscience, c'est que je crains que les utilisateurs pensent que tant qu'ils ne font rien d'illégal, ils peuvent tout télécharger, ils peuvent tout accepter, il n'y aura pas de problème. Et que finalement, une autre partie de la population se sente hyper surveillée et limite l'exercice de ses libertés. Alors, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, vote, accès à la santé, etc. Donc, si vous voulez, c'est ce paradoxe qui devrait aussi être mis en lumière.
Guillaume Desjean-Passano, vous émettez l'idée d'une protection technologique de nos données, puisque vous dites que le cadre juridique n'est pas encore suffisant. Il faut y aller en termes de protection technologique. Par quoi ça doit passer ?
Mais en fait, la protection juridique, elle, aussi parfaite soit-elle, ne sera pas suffisante, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas protéger les gens. Non, parce qu'on ne peut pas protéger les gens contre eux-mêmes. Et la problématique aujourd'hui, c'est que les gens vont révéler de l'information personnelle sur Internet dans un contexte où ils ne sont pas contraints économiquement, ils ne sont pas contraints par une amie. Ils ont juste plaisir à aller livrer des photographies, des vidéos sur des blogs, des sites, etc. Donc la question de l'éducation au numérique que Adrienne Charmé évoquait est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience aux gens qu'ils doivent être les acteurs de leur propre protection, que tout comme on a des règles d'hygiène dentaire et qu'on va de temps en temps faire vérifier sa dentition chez les médecins, il y a des enjeux d'hygiène numérique aujourd'hui. S'assurer de ce qu'on met en ligne concernant soi-même sur Internet, être prudent, contrôler les informations qui sont diffusées sur son propre compte. Et ce contrôle passe d'abord par de la prudence. Il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, les gens ne réalisent pas toujours que quand ils mettent en ligne des photos érotiques, pornographiques, quand ils racontent les détails intimes de leur vie privée, ils se mettent en danger, par exemple, par rapport à leurs employeurs ou des recruteurs potentiels qui vont faire ce type de vérification. Et puis, deuxième chose, au-delà de la prudence, il faut utiliser des outils pour se protéger. Ces outils, c'est des outils techniques, plutôt, qui sont aujourd'hui disponibles pour le grand public. Par exemple, utiliser des navigateurs dans lesquels on va éviter la collecte de la mise en place de cookies pour limiter les problématiques de publicité ciblée. Ces outils, aujourd'hui, ils existent. La CNIL en parle. Il y a plein d'associations qui en parlent aussi.
Ou le téléphone portable à moitié conçu par Edward Snowden, comme le rapporte le Guardian, qui émettrait donc un signal dès qu'une entreprise tierce voudrait collecter des données. Adrienne Charmé, est-ce que l'innovation technologique, ça peut être une réponse ?
Je pense que ça peut être une réponse si ça devient finalement un argument marketing, un argument de vente. Et ça, moi, j'ai assez espoir que ça arrive. Non pas que je sois une grande fan du marketing, mais je pense qu'il faut arrêter de penser la protection de sa vie privée comme quelque chose de triste, une contrainte et finalement quelque chose de compliqué. Sinon, comme disait Nathalie Devilliers, on se retrouve avec soit des gens qui abandonnent par lassitude, qui disent « tant pis, surveillez-moi, j'ai rien à cacher », et d'autres qui se restreignent. Donc il faut arriver à en faire quelque chose de positif. Moi, je commence à voir des entreprises, des start-up françaises baser leur business model explicitement sur la non-collecte de données personnelles. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Et il faut arriver à rendre plus sympathique et plus sexy, plus agréable à utiliser des outils dont on sait qu'ils vont nous protéger.
Maintenant, quels outils, par exemple ?
Je ne sais pas. Par exemple, des applications de messagerie sur un téléphone où j'ai une claire conscience de quel type de données sont éventuellement accessibles et de quel niveau de sécurité je vais disposer, en ayant toujours conscience que, de la même façon que le droit ne protégera jamais contre les utilisateurs, eh bien l'outil n'est jamais complètement sécurisé et qu'il faut savoir adapter l'outil à ses utilisations. Donc je pense qu'il y a un enjeu à la fois d'une protection juridique très importante et qui, à la fois par la loi puis aussi par les procédures judiciaires qui vont pour arriver, est-ce que cette loi est bien appliquée, des usages et des outils, si on arrive à ça et à une action assez vigoureuse à la fois du monde associatif et des autorités publiques, on devrait, j'espère, arriver à faire changer ça dans les années qui viennent.
Nathalie Devilliers, vous avez une idée d'outils?
Oui, alors il y a beaucoup de sites ou de prestataires de services qui sont certifiés, qui ont des labels, etc. Est-ce qu'on peut imaginer de délivrer un icône comme quoi vous êtes identifié sur ce site et vous êtes susceptible de recevoir de la publicité ciblée, ou alors le contraire, vous êtes sur un site qui respecte telle et telle chose, de manière à ce que le public ait un repère, de la même manière qu'on a des repères sur les produits alimentaires.
Après, il faudra vérifier ce repère.
Voilà, alors, tout à fait. Toute la question, qui va certifier, selon quels critères, avec quel comité scientifique, sur quelle base, à quel rythme, etc. etc. Ou alors, peut-être suivre un MOOC. Demander, par
comme,
exemple,
comme
à des élèves de suivre des MOOC.
Comme ceux que, voilà. Comme ceux que fait déjà Guillaume Desjean-Bassano.
Et bien,
allons-y.
Au CNAM.
Adrienne,
j'avais une petite anecdote là-dessus sur cette volonté d'informer de manière très claire. On avait proposé dans la consultation citoyenne sur le projet de loi numérique que de la même façon qu'un site devrait informer de manière très claire sur la durée de conservation des données qu'il collecte, on proposait que le site soit dans l'obligation de donner la liste des pays dans lesquels les données pouvaient potentiellement être conservées. Ça, c'était pas tant pour une question de traitement des données personnelles, parce que c'est le droit européen qui s'applique, mais sur les questions de surveillance. Et là, on nous a répondu que c'était impossible de donner les...
Qui vous a répondu ça ?
Le gouvernement, en disant, mais non, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, etc. Donc il y a effectivement des enjeux d'information importants. Je pense que si on apprenait que nos données sont conservées dans des pays soit qui notoirement surveillent leurs citoyens, soit qui sont pas du tout protecteurs pour les données personnelles, à un moment peut-être qu'on arriverait à faire le choix de ne pas utiliser ce type de service.
Je voudrais laisser le dernier mot à Guillaume Desjean-Passano. Est-ce que vous trouvez que l'idée selon laquelle la liste des pays qui ne respectent pas vraiment cette collecte des données puisse être dévoilée, c'est une bonne idée pour vous, en quelques secondes?
En fait, c'est déjà la loi, puisque sauf erreur de ma part, la loi prévoit que quand une entreprise, par exemple, transfère des données en dehors de l'Union européenne...
Mais est-ce qu'elle est respectée, cette loi ?
Ben, elle les peut respecter, mais la loi prévoit déjà que les personnes peuvent demander la liste des pays vers lesquels les données sont transférées.
Mais il faut le demander, nous, on voulait que ce soit affiché par défaut. Et là, on nous a dit non, c'est pas possible.
Mais je suis étonné que le gouvernement soit pas au courant de ça, bon...
Quels autres outils peuvent exister selon vous ?
Alors, en fait, je crois que sur la question des outils techno, ce qui est intéressant, c'est que le rôle des CNIL va beaucoup évoluer et que le règlement européen prévoit que les CNIL maintenant vont pouvoir labelliser des outils, des procédures respectueux de la vie privée et vont rendre publics ces outils et ces procédures. Donc, il y a aussi un enjeu économique, c'est que ça va inciter les entreprises à mettre en place ce type de dispositif, à les offrir au public, et ces outils pourront être labellisés par un organisme officiel qui, en France, sera la CNIL.
Et concrètement, ces outils ?
Ben comme par exemple un outil d'anonymisation de données personnelles, un navigateur internet respectueux de la vie privée.
Merci beaucoup en tout cas à vous trois, Adrienne Charmet de la Quadrature du Net, Nathalie Devilliers, docteur en droit, enseignante-chercheuse à l'école de management de Grenoble, et Guillaume Desjean-Passano, magistrat, professeur de droit à la protection des données. Des liens, des références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Vous pouvez aussi, comme chaque soir, réécouter cette émission sur cette même page, vous abonner au podcast et laisser des commentaires, même géolocalisés. On peut tout de même échanger sur Twitter également. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Chloé Leblond, Tanguy Omri. Merci également à nos collègues de France Bleu Isère et en particulier à Marjolaine Bernon qui a assuré notre liaison avec vous, Nathalie Devilliers, à Grenoble. À la réalisation, c'était Milena Eilig, et ce soir à la prise de son, c'était David Federman.